Déductible pour 40 000 tout à l'heure,
non,
en effet.
Mais seulement 10 000, moi. C'est un cadeau.
Je pense bien.
C'est alors, un cadeau royal.
C'est un cadeau. Venez donc voir ça dimanche prochain.
Oui, tenez, ce caniche, il a 14 mois.
Bon. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Mais parfaitement, madame. De beaux persans bleus, où sont-ils?
Les chats persans bleus, viens te montrer.
Allez, voilà. On va nous montrer maintenant des chats persans bleus. Mais ils sont loin, dites-moi, ces persans bleus.
Non, ils sont là, ils arrivent.
Ah, voici des chats persans bleus dans un magnifique panier d'osier. Eh bien, la première chose que je vous dirais, mes chers auditeurs, c'est qu'ils sont gris. Enfin, peut-être, est-ce que... Pardon ?
Gris bleu.
Gris bleu, oui. Attendez, je vais enlever mes lunettes parce que... Mais, personnellement, je les vois gris, mais enfin, c'est le véritable petit chat cigarette.
Ouais,
alors,
chat
c'est le frère et la sœur ?
Non.
Ah,
oui, c'est frère et sœur.
Des jumeaux.
Et, oui, c'est ça. Ils ont été primés avec Ruby Mouni.
Ah, parfait. Et c'est à vous, ça, madame ?
Oui, monsieur.
Bon, alors, vous vendez ça combien ?
5 000.
5 000 francs, les deux ou la pièce ?
La pièce.
Ah, la pièce. Bon, eh bien écoutez, mes chers auditeurs, vous vous rendez compte un tout petit peu par les prix qui ont été donnés à droite et à gauche de ce que peut valoir aujourd'hui un chat ou un chien. J'aime autant vous dire qu'il y en a certainement qui sont beaucoup moins chers. En tout cas, quand vous aurez une petite heure à passer et que vous serez dans le 15e arrondissement, eh bien venez voir rue Brancion, à cet ancien marché aux chevaux. Venez voir ce nouveau marché aux chiens et aux chats. Vous verrez qu'il est relativement animé. Et aux chevaux également, il y a... Pardon, avant de partir, je...
Alors, quand est-ce que vous allez venir voir le marché aux chevaux?
Ah non, mais le marché aux chevaux a lieu quand et où?
Le lundi, mercredi et vendredi.
Alors, lundi, mercredi et vendredi, ici même.
Ici.
Marché aux chevaux, il y a encore des chevaux à Paris?
Oh, il y a encore 800 ou 900 chevaux tous les marchés. Oh,
parfait, ça. Alors, lundi, mercredi et vendredi, marché aux chevaux rue Brancion. Et puis, alors, dimanche, marché aux chiens et aux chats.
Voilà.
Et les autres jours, eh bien, les autres jours, on peut aller au marché aux oiseaux.
Très curieux de venir voir le marché aux chevaux.
Bon. Et bien, sur ce... Mes chers auditeurs, nous vous disons au revoir et nous vous conseillons de venir vous amuser rue Brancion.
Though her words are simple and few, listen, listen, she's calling to you. Feed the birds, tuppence a bag, tuppence, tuppence a bag.
Ce reportage, signé Claude Darget, a été diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 22 août 1949.
À quelques jours du 21 juin, nous vous proposons une série sur l'été.
Géraldine Mühlmann.
Pourquoi les grandes vacances d'été marquent-elles tant nos enfances? Pourquoi y a-t-il aussi une touche d'angoisse dans l'été? Est-ce l'anticipation que ça va se terminer? La lumière qui change un peu après le 15 août? Les sécheresses qui sont de plus en plus rudes? Et puis, existe-t-il des lectures d'été? Une belle semaine en perspective qu'on espère ensoleillée.
Avec Philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. Elle est essentielle à nos cultures.
Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages. Elle est trois quarts des cultures dans le monde.
Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quand, au mois de mars 1987, pour les chemins de la connaissance, Jean Dève l'interrogeait dans une série de 5 entretiens, James Baldwin n'avait plus que quelques mois à vivre. Avec Jean Dève, Baldwin revenait sur son parcours depuis sa naissance en 1924 dans le Harlem le plus pauvre, sur son travail d'écrivain partagé entre l'essai et le roman, sur son engagement d'intellectuel dans le mouvement pour les droits civiques, son exil à Paris et plus tard son installation à Saint-Paul-de-Vence, sur sa vie d'Américain noir et homosexuel. Dans les 4e et 5e volets de cette série que l'on entend ici, cette conversation avec James Baldwin s'engage autour de ses essais « La prochaine fois le feu » et « chassée de la lumière. Dans ses derniers entretiens, l'auteur de Chroniques d'un pays natal dit se voir comme une sorte de témoin de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vu au cours de son existence, mais pas comme un porte-parole. Je m'appelle James Baldwin. Quatrième et cinquième et dernier temps d'une série d'entretiens avec l'écrivain américain pour les chemins de la connaissance, proposé par Jean Dev en 1987.
My name is James Baldwin.
Fils d'un pasteur de Harlem, James Baldwin, après avoir passé toute son enfance dans le quartier noir, exerce divers métiers, s'installe à Paris, où il écrit ses premiers livres qui le rendent aussitôt célèbre. Face à l'homme blanc, Chronique d'un pays natal, Personne ne sait mon nom, regagne les États-Unis, où il devient l'un des principaux porte-parole de l'émancipation des Noirs d'Amérique, puis s'installe à Saint-Paul-de-Vence dans une volonté de tourner le dos à Harlem et ainsi d'abolir la distance. La violence est de plus en plus violente, en dépit du temps. Par exemple, La prochaine fois le feu est un livre très violent.
La prochaine fois le feu, c'est un essai, enfin, deux essais, une lettre à un de mes neveux, dans laquelle j'essaie de lui expliquer ce que ça veut dire d'être un noir américain, les dangers, et de suggérer qu'il trouve un moyen en lui-même de surmonter cela. Et j'essaie de lui faire comprendre que ses concitoyennes, ses blancs américaines, sont ses frères, malgré eux. Et s'il sombre dans la haine, ce serait pour lui une espèce de suicide. Et que une façon de surmonter cela, c'est de regarder sa propre histoire. Et en même temps, s'il regarde son propre histoire, il est en train de regarder l'histoire de son pays. Et à ce moment-là, il peut trouver le moyen d'être libéré de ses pièges. Ça, c'est pas très violent, disons.
Cher James, voilà cinq fois que je commence cette lettre et cinq fois que je la déchire. Constamment, je vois ton visage qui est aussi le visage de ton père, mon frère. Comme lui, tu es coriace, sombre, vulnérable, ombrageux, avec ce qui pourrait très bien passer pour un côté querelleur parce que pour rien au monde, tu ne voudrais pouvoir être pris pour un lâche. Peut-être en ceci ressembles-tu à ton grand-père. Je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que ton père et toi-même lui ressemblaient beaucoup physiquement. Quoi qu'il en soit, il est mort, ne vous a jamais connu, et sa vie a été misérable. Il avait perdu la partie longtemps avant de mourir, parce qu'au fond de son cœur, il croyait vraiment ce que les Blancs disaient de lui. C'est en partie à cause de cela qu'il devint un tel saint. Ton père t'a certainement parlé de tout cela. Sache d'où tu viens, Si tu sais d'où tu viens, il n'y a pas de limite à là où tu peux aller. Les détails et les symboles de ta vie ont été construits selon un plan délibéré, destiné à t'amener à croire ce que les blancs disent de toi. Tâche, s'il te plaît, de te souvenir que ce qu'ils croient, de même que ce qu'ils font et t'obligent à supporter, ne porte pas témoignage de ton infériorité, mais de leur cruauté et de leur peur. Tâche de discerner, mon cher James, à travers cette tempête qui fait aujourd'hui rage autour de ta jeune tête, la réalité qui se dissimule derrière ces mots « acceptation » et « intégration ». Agir, c'est s'engager. Et s'engager, c'est prendre des risques. Dans le cas particulier, le risque, aux yeux de la plupart des Américains blancs, c'est la perte de leur identité. Essaie d'imaginer tes réactions si tu t'éveillais un matin pour trouver le soleil brillant de tout son éclat au milieu d'un scintillement d'étoiles. Tu aurais peur, parce que tout ceci serait contraire à l'ordre de la nature. Tout bouleversement dans l'univers nous effraie parce qu'il attaque si profondément notre sens de notre réalité propre. Eh bien, dans le monde des blancs, le noir a rempli la fonction d'une étoile fixe, d'un pilier immobile. La prochaine fois, le feu.
I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove dear.
Et le long essai, c'est... je parle de Nation of Islam movement aux États-Unis et l'histoire de l'Église chrétienne. Et ce que ça sort de noir là, dans tout cela, et aussi longtemps que ça existe comme ça, ça pose un grand danger pour les États-Unis et par implication pour le monde occidental. Ce n'est pas violent. L'histoire est violente. Mais c'est comme ça. Non? Des fois, quand on me traite comme violent, je me dis... Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à comprendre, j'étais furieux, j'étais même blessé. Mais non, je comprends quelque chose d'autre. La prochaine fois, le feu, les fêtes que je suis forcé de mettre devant vous sont violents, sont dangereux. Mais c'est pas moi qui a créé ces fêtes. C'est vous qui ne voulez pas le regarder. Mais le résultat de ces fêtes, c'est que c'est quotidien. Et ça monte. Et au fur et à mesure que ça monte et tu ne regardes pas, tu es vraiment en danger. Nous tous en danger. C'est une espèce de, comment dire, ce n'était pas une attaque, c'était un avertissement. Tu comprends ce que je veux dire?
Mais il me semble qu'avant, il y avait une pression blanche sur la société noire, ou une oppression blanche, et qu'aujourd'hui, l'oppression est quand même beaucoup plus ambiguë, plus compliquée.
Ambiguë et compliquée, si tu veux, mais très réelle.
Mais plus feutrée.
Feutrée, ça veut dire quoi?
Disons qu'il y a un système d'arrangement.
Oui, mais le système d'arrangement ne masque pas la réalité. Ne masque pas la réalité du pouvoir. La réalité du pouvoir reste exactement comme elle était. Et toutes les concessions, soi-disant, des années 60, regarde le résultat. Et ça c'est pas mystérieux, et c'est pas parce que le noir est inférieur, ou parce que c'est maintenant pas une question, comme on dit chez nous, mais non. C'est pas une question de la race, mais une question de classe. Hein? C'est pas vrai non plus. La vérité, je crois, j'ai peur que c'est que les gens, dans l'histoire, il me semble que les gens qui avaient... Les gens sont rarement donné le pouvoir. Ils ont rarement partagé le pouvoir. Ils ont partagé dès qu'il a fallu. Mais pas avant. Et si c'est compliqué dans la question de la peau, et compliqué par le supermarché, par l'histoire écrite dans l'histoire, l'histoire écrite dans cette peau. C'est pas l'histoire noire, mais c'est l'histoire blanche. C'est pour ça que le monde blanc faisait de telles images sur le visage noir. C'est pour ça que le film Autant de porte devant est toujours un grand succès. Ça n'a absolument rien à voir avec la vérité sur les noirs et n'a rien à voir avec la vérité sur les blancs non plus. Mais c'est une image qu'on veut tout prix garder. Et cette image est très dangereuse, encore plus dangereuse maintenant que jamais, parce qu'il n'y a pas la vérité dedans. Vous n'êtes pas du tout comme ça, ni moi non plus. Mais évidemment, dès qu'on attaque une telle histoire, dès qu'on attaque une telle image, on dit que tu es violent. C'est l'image qui est violente. Et c'est le mensonge qui est violent. Et très dangereux. Pour nous, pour vous et pour moi.
L'été de mes 14 ans, je passais par une crise religieuse prolongée. J'emploie le mot « religieux » dans son sens ordinaire, impropre, voulant dire par là que je découvris alors Dieu, ses saints, ses anges et les ardeurs de son enfer. Étant né dans une nation chrétienne, j'acceptais cette divinité comme l'unique. Je supposais qu'il n'existait qu'entre les murs d'une église, c'est-à-dire de la nôtre. Et je supposais également que Dieu et sécurité étaient synonymes. Le mot « sécurité » nous amène au véritable sens du mot « religieux » tel que nous l'employons. Donc, pour m'exprimer d'une autre façon plus exacte, je commençais pendant ma 14e année et pour la première fois de ma vie, à avoir peur, peur du mal qui était en moi et autour de moi. Je ne vis pendant cet été à Harlem que ce que j'avais toujours vu. Rien n'avait changé. La prochaine fois, le feu.
Comment tu travailles? Bon, par exemple, il y a James Baldwin essayiste et un James Baldwin romancier.
Oui.
Et comment se fait ce partage du travail? Comment s'impose par exemple un roman ou les personnages d'un roman et comment s'impose un pamphlet?
C'est une drôle question, mais c'est une vraie question. Pour un roman.
Tiens, pourquoi drôle? Pourquoi c'est une drôle de question?
Parce que c'est difficile de répondre. Parce que je ne sais pas exactement. Je n'ai jamais pensé d'être polémiciste ou essayiste. Pas du tout. C'est quelque chose qui...
Mais peut-être porte-parole. Ça va très bien avec le prédicateur, ça.
Oui, mais je n'ai pas pensé à ça. Du tout. Du tout, du tout. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans le sud des États-Unis. Peut-être surtout à cause de Martin Luther King. À cause des gosses, à cause de... Mais je n'ai jamais pensé à ça. De toute façon, d'écrire un essai, Ils sont tous très difficiles, franchement, parce que le QNSA, c'est quoi? C'est, tu es en train de suivre un argument, plus ou moins de séduire le lecteur de regarder cet argument. Tu ne peux pas le convertir, si tu essaies de le convertir, c'est chaos. Mais tu veux qu'il regarde le fil. Et il peut faire n'importe quoi avec. C'est lui qui a décidé. Voilà, ça c'était difficile parce que il faut que moi-même que je sois très clair sur cette ville et que je aussi très froid. Mais c'est encore plus complexe que ça parce qu'il n'y a pas moyen de faire ça sans faire le témoignage. Le témoignage est toujours une espèce de confession. Donc tu es là dedans, si tu veux, si tu veux pas. Dans un roman, c'est une autre chose. C'est plus. C'est pas plus facile. C'est. Dans un roman, tu es à la merci de des personnages. Les personnages t'appellent. Et tu commences à vivre avec. Et. Tu le séduis. Parce qu'ils sont très. Exigeants. Et très traite. Il y a des choses qui ne te parlent pas. Ou ils changent tout à coup. Il y a une autre idée. Et tu le suis parce que tu n'as pas le choix. Et fur et à mesure, finalement, tu vis. À un moment donné, tu vis avec ces gens-là plus intimement qu'avec la famille ou avec tes amis. Ils sont. Ils ont pris ta vie, quoi. Et tout le suite jusqu'au bout, jusqu'au moment où on est fini. Et là, ils sont un peu perdus. Mais c'est comme ça. Et dans tous les deux, je ne sais pas. Un essai peut être épouvantable d'écrire à cause de cette. C'est code red. À un moment, tu as beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'espace, mais c'est aussi très dangereux parce qu'il faut utiliser tout ça.
Est-ce que le roman n'est pas un livre qui s'adresse aux lecteurs noirs alors que l'essai pourrait s'adresser à la société blanche?
Non.
Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce partage des...
Non, ça ne marche pas comme ça du tout. J'aurais pu penser, mais non. La prochaine fois, le feu était pris par les Noirs comme par les Blancs. Peut-être, dans ce moment-là, c'était encore plus les Noirs que les Blancs. Mais tous les deux, et surtout maintenant les jeunes. La différence qu'on puisse imaginer, ça n'existe pas.
Louisiana, I must got to know that.
J'écris les pièces aussi. Si tu vois le sale, les noirs et les blancs ensemble, c'est révélateur. Et très beau. Très beau, mais un peu choquant au début.
Ça vous donne de vertige parfois d'être le porte-parole?
Dans mon esprit, je veux dire, mes pensées, je ne pense pas à moi-même comme porte-parole. Il n'y a personne qui peut être porte-parole. C'est beaucoup, beaucoup trop vaste, beaucoup plus complexe. Non, je suis une espèce de témoin. Je n'ai pas témoignage. Je suis une espèce de témoin. Pas où j'ai passé, ce que j'ai raconté, les choses que j'ai vues.
Et Harlem reste la mesure de votre expérience?
La mesure? Oui, peut-être on peut dire comme ça, puisque le but de n'importe quelle vie, les choses appris au début, de mes yeux appris au début. Oui, d'une certaine manière, bon gré mal gré, conscient ou inconscient. Oui, je crois que tout le monde garde en soi ses débuts et les décisions faites à ce moment-là, les découvertes faites au début d'une vie, ça reste. D'une certaine manière, oui, c'est ça la mesure. C'est mon modèle de communauté, mon modèle de père, mon modèle de mère, mon modèle de frère et sœur, mon modèle de société, et comment agir dans la société, le danger d'une société, les possibilités, le manque d'amour, l'amour, tout ça. Et évidemment, ça ne m'a jamais frappé, puisque je suis né là-dedans, j'ai porté ça avec moi, n'importe où j'étais, c'était ça le modèle, j'étais toujours en train de faire, pas du tout consciemment, mais en comparaison avec mes racines et ma situation. Tu vois ce que je veux dire?
Quand vous vous mettez à votre table de travail,
oui,
vous faites une projection de, disons, d'Harlem devant vous, un peu déformé?
Non, je crois pas.
C'est un plan fixe?
C'est une drôle de question, je ne sais pas comment répondre. Non. Si c'est une pièce ou un roman, j'ai devant moi quelques personnes, quelques personnages. Évidemment, les personnages se trouvent dans un certain milieu. Mais pas forcément Harlem, bien sûr. Sauf si les choses que j'ai suggérées avant, c'est vrai. Par comparaison, le type se trouve à Marseille, mais puisque moi je suis de Harlem, ma clé pour Marseille, c'est la clé que j'ai portée de Harlem. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, il faut que je comprenne Marseille pour libérer mon personnage pour agir à Marseille. Mais c'est vrai, oui. La clé pour Marseille se trouve dans ma jeunesse, dans mes racines, mes premiers modèles. Thank you.
L'été de mes 14 ans, je passais par une crise religieuse prolongée. J'emploie le mot « religieux » dans son sens ordinaire, impropre, voulant dire par là que je découvris alors Dieu, ses saints, ses anges et les ardeurs de son enfer. Étant né dans une nation chrétienne, j'acceptais cette divinité comme l'unique. Je supposais qu'il n'existait qu'entre les murs d'une église, c'est-à-dire de la nôtre. Et je supposais également que Dieu et sécurité étaient synonymes. Le mot « sécurité » nous amène au véritable sens du mot « religieux » tel que nous l'employons. Donc, pour m'exprimer d'une autre façon plus exacte, je commençais pendant ma 14e année et pour la première fois de ma vie à avoir peur. Peur du mal qui était en moi et autour de moi. Je ne vis pendant cet été à Harlem que ce que j'avais toujours vu. Rien n'avait changé. La prochaine fois, le feu.
My name is James Baldwin.
James Baldwin, l'un des écrivains américains les plus importants d'aujourd'hui, s'est toujours efforcé de dénoncer le racisme et le refus des États-Unis de considérer leur histoire. Aîné de 9 enfants, il est né à Harlem en 1924. Son père, originaire de la Nouvelle-Orléans, vient travailler dans le Nord. Ouvrier dans une manufacture, il prêche le dimanche au temple. Ainsi est élevé James Baldwin, à l'ombre de la pauvreté et de la religion. Ces deux révoltes, pauvreté et religion, sont la matière de son œuvre, et surtout de Chasser de la lumière. J'aimerais bien que vous nous parliez des extrémistes, de Personne ne sait mon nom, et des chassés de la lumière.
Les extrémistes sont évidemment des gens qui simplifient les choses. Un peu trop, peut-être. Mais comme celle-ci. Dans ma tête, il y avait deux extrémistes. Il y avait l'extrémiste noir. Quand c'est très simple, et beaucoup trop simple, de décider que le sort des Noirs est la faute uniquement des Blancs, ou pour quelques-uns des Juifs. Et que la façon de résoudre ce problème, c'est d'être bien vengé sur les Blancs, ou le tuer, ou éliminer. Les Blancs ou les Juifs. C'est méchant, évidemment, c'est bête, c'est dangereux. Mais puisque c'est simple, c'est très populaire. Tu vois ce que je veux dire? Et évidemment, les Blancs, qui suppose pour simplifier les choses, c'est de garder le noir dans sa place ou l'emprisonner, le tuer. Et ils sont tous les deux les mêmes. Et j'ai peur pour les enfants, tous les deux. Et quand je parle des extrémistes, je parle de cela, je parle de grands dangers. Dès que les gens... Parce que les gens sont très facilement séduits. C'est plus facile de me tuer comme noir. Ça, noir comme blanc, de me tuer, m'emprisonner, parce que ça te soulage et ça, d'après toi, ça simplifie, ton problème. C'est pas vrai du tout, ça ajoute. Mais il y a toujours les extrémistes. Une des raisons pour lesquelles j'ai vécu des lettres à mon neveu. La seule façon d'éliminer cette possibilité, c'est d'éliminer le mobile. Car aussi longtemps qu'il y a les Noirs, les jeunes surtout, en taule, injustement, on doit être tués par la drogue. Et on sait pourquoi et comment. Et à Orléans, évidemment. Et aussi longtemps que ça existe, il y aura toujours des extrémistes pour en profiter. Tu vois ce que je veux dire? Et la même chose chez les Blancs. Et la chose qui des fois me décourage, c'est que il y a des jours qu'il me semble que ça va continuer comme ça pour toujours. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Et le seul espoir pour moi, je parle disons de ma façon de voir les choses, c'est de regarder intérieurement, au centre de moi-même, je regarde l'image des enfants. Après tout, les enfants sont les êtres les plus importants. Et c'est nous qui les corrompent avec nos simplicités. C'est nous qui les trahissons avec nos simplicités. Mais pour nous, étant donné notre âge, nous ne sommes pas pleins de possibilités, mais les enfants, oui. Et nous sommes obligés, il me semble, de conseiller comment construire un monde mieux que le monde que nous étions en train de lui donner.
Arrivent-ils ceux qui sont chassés de la lumière comme Malcolm X
Malcolm a changé beaucoup avant sa mort. Nous étions copains d'ailleurs. Malcolm a quitté le Nation of Islam Movement. Il est allé à Mecque, et où il avait écrit une lettre à Harlem, enfin à l'Amérique, en disant qu'il rejetait ses doctrines. Il faisait une grande erreur, il dit. Parce qu'il voyait d'après lui des preuves à la Mecque que tout le monde, toute la couleur du monde était là. Et donc c'était un mensonge, question de couleur. Un mensonge inutile d'ailleurs. À ce moment-là, il a été tué. On peut pas vraiment maintenant discuter cette époque, c'était quelque chose d'autre. C'était une époque qui était, d'une certaine manière, cette époque était finie avec l'assassination de ces deux types, de Malcolm, d'abord en 65, et Martin Luther King en 68. Moi, j'ai travaillé avec tous les deux, et ils commençaient très loin chacun de l'autre, et à la fin, ils étaient ensemble. Et dès qu'ils ils ont compris, ils ont constaté que le problème noir n'est pas un problème américain, mais un problème mondial, on l'a tué.
Et ça mettait un point final, ça, ou bien ça relançait le...
Oh non, c'est pas un point final, c'est jamais un point final. Mais le façon de lutter après, Martin et Malcolm, d'abord il y avait une espèce de désolation, et on commençait à lutter d'une autre manière. On a appris d'autres choses. C'est pour ça que je suis... on dit que beaucoup de choses ont changé, ça c'est vrai. Mais pas de façon qu'on espérait. C'est beaucoup plus complexe, ces changements.
C'était même imprévu.
Pas totalement. Pas totalement. Ni pas Martin, ni pas Malcolm. Non. Pour suivre cela, c'était complexe et un peu dangereux d'ailleurs. Mais on peut dire qu'une des choses qui est en train de nous arriver tous, c'est la question de l'identité qui est en cause pour tout le monde. La question de l'identité qui implique l'idée des nations. Et comme les jeunes se rendent compte beaucoup, beaucoup mieux que nous, parce qu'ils étaient nés sous la menace d'extinction universelle. Moi, j'étais un homme avant que le bombe ait été lancé. Mais eux, ils étaient nés sous cette ombre. Et donc, ils sont forcés de regarder le monde d'une autre manière. Mieux que nous. Nos drapeaux, nos frontières, nos arrangements économiques, tout ça est très menacé parce que c'est devenu, c'est en train de devenir inutile, trop cher. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on sera forcé de regarder le monde comme ça. C'est pas du tout comme il était à l'époque de l'Empire britannique. Et donc, ça veut dire que tout le monde dans notre époque est tout à fait une autre chose, tout à fait imprévu. Il faut tout refaire peut-être. Mais tu vois ce que je veux dire?
Les nations occidentales sont prisonnières d'un mensonge, celui de leur prétendu humanisme. Cela signifie que leur histoire n'a pas de justification morale et que l'Occident n'a pas d'autorité morale. Plus concrètement encore que Frantz Fanon, Malcolm, qui utilisait le langage afro-américain, a montré à ses frères la nature et les implications de ce mensonge, le rôle qu'il jouait dans leur situation d'opprimés. Il leur a expliqué comment, étant donné le passé et la puissance des nations occidentales, ce mensonge était devenu un problème général qui menaçait la vie de millions d'êtres humains. « D'où vil que je sois », déclare l'un des personnages de Dostoïevski dans L'Idiot. « Je ne crois pas à ces wagons qui apportent le pain à l'humanité, car s'ils ne sont pas dirigés par de principes moraux, ils peuvent froidement exclure une partie importante de cette humanité du festin qu'ils apportent. C'est ce qui se passe déjà, et c'est ce qui se produit maintenant. Chassé de la lumière.
De l'identité.
Oui.
Si vous en parlez, souvent même de l'identité sexuelle.
Oui.
Comment on pourrait la circonscrire, ça, cette identité ?
On arrive, du coup, je sais pas, une idée de soi-même. Peut-être à travers tous les êtres qu'on n'est pas. Moi-même, je suis arrivé plus près à moi-même en me libérant des étiquettes qu'on m'a collées au dos. C'est-à-dire d'abord, je suppose qu'on arrive à une certaine identité dès qu'on se rend compte qu'on veut ceci, on ne veut pas cela. Je suis ici, je ne suis pas là-bas. Je vais là-bas. Je vais pas ailleurs. Je l'aime telle. Je refuse celle-ci. Je suppose que tout le monde arrive à une identité à peu près comme ça. Et si c'est une vraie identité, tu es lié avec tout le reste du monde parce que tu n'as rien à cacher. Et là, tu peux être nourri par les autres. Mais si c'est une fausse identité, tu es forcément d'être exilé des autres, parce que tu as toujours peur que quelqu'un peut découvrir la vérité que toi, tu ne veux pas accepter. Tu vois ce que je veux dire? Il me semble que cette liberté, finalement, c'est la clé de notre avenir, car presque tout le monde existe dans une espèce d'identité qui sait très bien que c'est faux, mais il peut pas se libérer.
Mais quand vous arrivez à Paris, par exemple, elle a lieu, votre identité, beaucoup plus qu'à Harlem.
Harlem à New York, je n'étais pas menacé du tout d'une certaine manière. J'étais menacé par la pauvreté, j'étais menacé par des choses banales, mais j'étais beaucoup menacé vis-à-vis de moi-même. Donc j'étais finalement libéré de découvrir qui j'étais. Et ce moment-là, à partir de ce moment-là, tu trouves de quoi de se vivre, de trouver un moyen de vivre dans le monde, de vivre avec les autres. Puisque tu peux vivre avec toi-même. Mais avant cela, tu ne peux pas. Avant cela, moi, je ne pouvais pas. Tout le monde était une espèce d'invention. Ou était contre moi, ou pour moi. Dans un tel enfer, il n'y a que toi. Des fois, tu es pour toi-même, des fois, tu es contre toi-même. Et tu imagines, tu ne vois pas les autres. Tu vois que les choses dont tu as peur.
No regret, although our love affair has gone astray. No regret, I know I'll always care though you're away. Somehow our happy romance ended suddenly.
C'est seulement dans sa musique que le noir américain a été capable de nous conter son histoire. Cette musique que ses compatriotes sont capables d'admirer dans la mesure où, protégés par leur sentimentalité, ils ne la comprennent qu'en partie. Il reste encore à la raconter autrement. Mais aucun Américain n'est prêt à l'entendre. Le silence qui résulte de cette incapacité d'expression nous oppresse aujourd'hui encore de sa dangereuse réverbération. Cette histoire nous est contée sous la contrainte avec des symboles, des signes, des hiéroglyphes. Elle transparaît dans la langue des Noirs, dans celle de la majorité blanche et dans leur cadre de référence respectif. L'influence que le Noir a exercée sur la psychologie américaine se trahit dans notre culture populaire et dans notre morale. Nous ne lui sommes aliénés que dans la mesure où nous le sommes à nous-mêmes. Chronique d'un pays natal.
Because somebody new looks good to you, no regrets. Sweetheart, no matter what you say or do, I know our love will linger when the other love forgets. So say goodbye with no regrets.
Qui vous rencontrez à Paris? Qui se trouve autour de vous?
Autour de moi. Au début, il n'y avait personne. Enfin, je connaissais Richard Wright, un peu de New York, mais il est beaucoup plus âgé que moi, et beaucoup plus riche, donc je n'ai pas vu souvent. Enfin, l'American Colony était beaucoup plus riche que moi, donc on s'est vu, mais de loin. J'avais des amis, des étudiants, et comme je dis, les Algériens. Et plus tard, j'étais mis avec dans le quartier du Saint-Germain-des-Prés. Il y avait Jules Greco, il y avait Simone Signoret, il y avait bien sûr Jean-Paul Sartre et Albert Camus. J'ai parlé avec Sartre deux, trois fois. Il y avait Jean Genet, finalement, il y avait Boris Vian. Et il y avait aussi des musiciens de jazz noirs qui commençaient à arriver les années 48, 49, 50. Il y avait surtout pour moi Sidney Bechet, qui m'a adopté comme fiole. C'était tout une autre époque. J'étais très ami avec Simone, finalement. Et quelques autres. Mais cette époque-là, c'était... Nous étions tous très jeunes. On se connaissait, mais... Pas très bien, pas très bien. Plus tard, c'était... parce qu'on était à ce moment-là tous très jeunes aussi. On était en train de grimper nos échelles. Et tu vois, c'était une époque formidable dans ma vie.
Un peu insouciante, en dépit des problèmes.
En dépit, oui. Oui, parce que je n'avais pas de problème à ce moment-là. J'avais des problèmes tout simplement de pauvreté, des problèmes avec moi-même, beaucoup de problèmes, mais pas de problème que j'avais à New York.
Je suis né à Harlem il y a 31 ans. J'ai commencé à imaginer des intrigues de romans vers l'époque où j'ai appris à lire. L'histoire de mon enfance est une fantaisie morne et banale que nous pouvons mettre de côté après avoir simplement observé que je refuserais probablement de la revivre. En ce temps-là, ma mère cultivait une habitude exaspérante et mystérieuse. Elle faisait des enfants qu'au fur et à mesure je prenais en charge d'une main, tandis que de l'autre, je tenais un livre. Ils en ont probablement souffert, bien qu'ils aient eu depuis la gentillesse d'affirmer le contraire. Et c'est ainsi que j'ai lu et relu maintes fois la case de l'oncle Tom et les deux villes. En fait, c'est ainsi que j'ai lu presque tous les livres qui me tombaient sous la main. à l'exception de la Bible. Probablement parce que c'était le seul qu'on me conseillait de lire. Chronique d'un pays natal.
C'était « Je m'appelle James Baldwin », quatrième et cinquième et dernier temps d'une série d'entretiens avec l'écrivain américain pour les chemins de la connaissance proposée par Jean Dève. Mise en onde, Pamela Dousseau. Première diffusion, les 23 et 24 avril 1987 sur France Culture. Ainsi se terminent les nuits de France Culture. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Hassan Mbechour, Virginie Leduo. Vous pouvez réécouter et télécharger ces émissions à la page des nuits, sur le site et sur l'application Radio France. Bonne journée à tous, à l'écoute de France Culture.
h30, notez-le bien, c'est le début des matins sur France Culture.
Guillaume Erner.
La philosophie pense l'actualité de la guerre, c'est tout à l'heure dans les matins.
Les matins de France Culture, aujourd'hui à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le 26 avril 1986, le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Cet accident sera la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle.
C'était un phénomène tout à fait ordinaire, ce qui fait que ça ne m'a pas inquiété.
Dans cette nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Ils l'ont vécu », retour à travers les archives et témoignages de celles et ceux qui étaient dans la centrale ou à proximité.
J'ai donné mon autorisation pour continuer à augmenter la puissance.
« Ils l'ont vécu »,